Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec Elodie. Salut Elodie.
Salut Cyrus, salut à toutes, salut à tous et ravi de vous retrouver.
On est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Proxy Jeux. C'est la saison 15 et on a le privilège, toi et moi, d'entamer cette saison. C'est la toute première émission de la saison 15, officielle en tout cas.
La pression. Hein.
Voilà, on a été désigné pour accueillir nos auditeurs et nos auditrices dans cette saison 15. Peut-être accueillir des nouveaux auditeurs et des nouvelles auditrices, qui sait. Écoutez, bienvenue en tout cas à vous si c'est le cas. On espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous avez pu en profiter, si vous avez pu prendre des vacances, et que vous avez pu jouer, surtout.
Mm-hmm. Et jouer partout, c'est un peu le thème de l'émission.
Ouais, ça va être un petit peu ça, le thème de l'émission, quelque part, ouais. Partout et avec tout le monde. Écoute, on va attaquer. Je te propose de passer au remerciement des donateurs et donatrices de notre podcast, puisque nous avons effectivement des gens qui nous soutiennent financièrement et on se fait un plaisir et on y tient beaucoup à remercier ces gens. On va remercier une partie de ces donateurs et donatrices, on va en remercier un quart, puisqu'il y aura 4 émissions principales, on va dire, dans le mois, et on a réparti la liste sur ces 4 émissions. Je te laisse la parole, Elodie, je te laisse le plaisir et le privilège de les remercier.
C'est ça, un grand merci à vous tous et toutes, parce que c'est vrai que c'est grâce à vous que nous continuons de dire des bêtises dans les micros. Donc merci Karl Schnaps, merci Mouton, Benjib, Wallring, Crash305, Altaripa, Grovast, Sam Chaki, Kinarbre, Nico Como, la famille Guyot, Croquelume, Siol, Docteur Cheux et Suiveil. Merci également à la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul, Semécourt, toutes équipées d'un café-jeu. Mais c'est aussi et surtout une boutique de vente de jeux en ligne sur cavernedugobelin.com.
Eh ben, on va passer à la suite de l'émission et avant d'attaquer l'émission en tant que telle, on a pour coutume de passer en revue les commentaires de l'émission précédente. Et donc l'émission précédente des Jeux du Mois, c'est une émission dans laquelle tu nous avais parlé de Rebelle Princesse.
Tout à fait, ça y est, c'était ma première participation aux Jeux du Mois et je m'installe maintenant.
tu fais le doublé, t'enchaînes.
C'est ça.
Tu avais été accompagné par Mad qui avait parlé de Pixel Aventure, l'île au Forban. Donc on a eu 6 commentaires sur cette émission. Alors on a Ninfus qui nous questionnait sur la proximité entre Rebelle Princesse et Papayou, deux jeux qui sont des héritiers de la Dame de Pique finalement, qui sont ces jeux de plis dans lesquels il faut pas faire de plis en fait. C'est ça la particularité principale. Donc il faut esquiver les plis. On va dire qu'on a Rebelle Princesse qui est une version peut-être avec des petits effets, puisqu'il y a les fameuses princesses.
Les fameuses princesses et les fameux effets de manche qui la relient aussi au barbu. Donc on peut dire qu'en fait, c'est comme si le barbu et la dame de pique avaient fait un bébé, donc c'est les rebelles princesses de pique barbu.
Ouais, voilà, c'est ça.
Un peu.
C'est bien dit comme ça, ouais.
Et moi j'avoue que c'est... Ouais, moi j'ai plus... Enfin, peut-être parce que j'ai pas trop joué à la dame de pique et que c'est vraiment le côté plutôt barbu avec les effets de manche qui changent à chaque manche et ouais, dont on en a beaucoup dans la boîte aussi, qui font que chaque partie est complètement différente, qui m'ont plus marqué encore que le fait de ne pas avoir à faire certains plis.
Ouais.
Marrant, hein.
Oui, c'est surtout certains plis à éviter, quoi. Mais bon, ça fait vite beaucoup de plis, hein. Vaut mieux partir du principe d'éviter les plis, hein. C'est plus simple.
Oui, mais certains effets de manche font que t'as intérêt à en faire des plis, au contraire.
Ouais, d'accord, ok.
Justement, ouais, c'est ça qui est...
Qui rajoute une différence, quoi.
Ouais.
Ouais, Papayou, bah du coup, c'est un jeu peut-être plus proche de la Dame de Pique. Bah, la seule différence, c'est que finalement, il y a une couleur séparée, qui sont les Payou, qu'il ne faut pas attraper, d'où Papayou, voilà, évidemment. Voilà. Donc, effectivement, t'as raison, Ninfus, les deux jeux sont proches. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est l'un est la réédition de l'autre, hein, comme tu le disais dans le commentaire. Mais il y a une parentalité commune, on va dire, avec la Dame de Pique, quoi. Bon, alors ensuite, on a Lich et Le Chafouin qui nous ont partagé un peu leur nostalgie Là, ça fait plutôt référence à Pixel Aventure, L'île aux Forbans, puisqu'ils vont nous citer des jeux de point and click auxquels ils ont joué et que ce jeu clairement leur évoque. Hein. Donc, il y a Alish qui nous parlait de Days of the Tentacle, qui est un jeu que moi j'ai fait jeune, il y a longtemps, voilà, et que j'aimerais bien refaire parce que je me rappelle plus trop des trucs, mais je me rappelle que c'était plutôt rigolo comme jeu.
Bah écoute, moi j'ai joué jeune aussi, il y a un mois. Parce que
Je sais
j'estime
pas
être
comment je peux
toujours
prendre cette
jeune.
remarque.
Je ne sais pas du tout, tu la prends comme tu veux.
Ok, alors je vais la prendre bien.
Je m'estime toujours jeune. Et franchement, c'était très cool. Bah juste, Man en avait parlé pas mal dans les inspirations du jeu de d'Anctil. Et elle m'avait donné très 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 envie. Et on l'a trouvé sur la PlayStation 5. Du coup, on a
Ah
pu
oui.
y jouer et c'était vraiment délicieux comme jeu. Très drôle.
Ouais,
Très
je crois
très drôle.
qu'effectivement ça a été porté sur plein de supports. Ok, et donc le Chafouin, lui, nous parlait plutôt de des chevaliers de Baphomet. Donc voilà, il y a deux religions principales visiblement. Lui, il est
Oui, c'est
plutôt
moi. C'est...
plutôt
Alors moi,
chevalier de
celui-là, j'y ai
Baphomet.
joué très jeune. J'ai joué bébé à celui-là.
Ouais,
C'est ma logique. Et c'est beaucoup plus sérieux, Chevalier de Baphomet.
je l'ai pas fait chevalier de Baphomet. Enfin, je ne crois pas. Alors j'en ai vraiment tellement pas de souvenirs que je crois ne pas y avoir joué. Je pense que j'ai vu un ami y jouer. Voilà, je devais faire du backseating.
Ouais, moi, c'était ma sœur qui me regardait avec les Solus et qui...
Ah oui.
Et on jouait toutes les deux. Elle a 6 ans de moins que moi et elle m'en a reparlé il n'y a pas longtemps. C'était mignon comme souvenir.
Et enfin, on a Bobby Fada qui s'est donc fendu d'un commentaire pour souligner l'exactitude parfaitement exacte de l'émission. Voilà, donc plein de compliments. Et du coup, bah, on va tâcher d'en faire autant, au moins,
Eh
hein,
ben
dans
oui.
cette émission. Enfin, faire à peu près pareil.
Voilà, donc du coup on n'est pas exact si on fait à peu près.
Oui, bah oui, voilà, mais bon, on fait
Ah
ce
là
qu'on
là
peut,
là
hein.
là 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 là, on commence mal.
On fait
On
ce qu'on peut.
commence mal si déjà on n'est pas exact.
On se soumettra au jugement de Bobby Fada.
C'est ça, tu diras presque exact le prochain coup. On t'attend, Bobby Fada, pour le
Voilà,
futur commentaire.
on vous attend tous et toutes dans les commentaires pour nous corriger et nous redresser. Bien, eh bien, écoute, Elodie, je te propose de t'attaquer l'émission et de passer au vif du sujet. De quoi vas-tu nous parler dans ces jeux du mois?
Eh bien, je vais vous parler de Penguin Party. Donc, fiche technique de Penguin Party. C'est un jeu de Rainer Knizia, illustré par Wanjing Gill, pour 2 à 6 joueuses et joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 30 minutes, et sorti chez Yellow. C'est une localisation, avant ils étaient... Enfin, le jeu est aussi chez Plate, éditeur coréen, et donc c'est sorti cet été. Donc j'ai découvert ce jeu à Essen l'année dernière. En fait, j'ai vu des pingouins mignons sur une table et j'ai proposé à Cargo et à un autre ami « ça vous dit de vous asseoir? Regardez ces petits pingouins comme ils sont choubidous. »
D'accord. Les illustrations toujours.
Bah oui, moi c'est ça qui m'attire. Mais souvent, bah écoute, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et du coup, on s'assoit. Et on a les explications de jeu, et j'entends Cargo qui marmonne un peu, puis il y a du bruit, etc. Je l'entends dire « mais c'est un non-jeu, mais c'est un non-jeu ». Je me dis « mais c'est pas possible, il a le grand sourire, il dit c'est un non-jeu ». C'est vrai que les explications de l'animateur, on se disait « mais ce jeu, ça va pas être fifou ». Puis on a fait la partie. Et là, j'ai compris qu'en fait, il ne disait pas « c'est un non-jeu », mais c'est un bon jeu. Et
Donc,
oui, je suis un
articule
peu...
cargo.
Articule cargo ou débouche-toi les oreilles, Elodie, on ne sait pas. Ou taisez-vous tous, Aysen, hein, parce que vous êtes beaucoup trop nombreux à faire du bruit. Je pense que c'est surtout ça. Et oui, en fait, c'était vraiment un bon jeu. Et c'était un jeu auquel il avait joué quelques années auparavant, mais qui était complètement tombé dans l'oubli au point que lui-même l'avait oublié, en fait. Et bah oui, parce qu'une fois n'est pas coutume, nous allons vous parler d'une réédition aujourd'hui. Enfin, je vais vous parler d'une réédition aujourd'hui. Et je vais aussi prendre l'émission un petit peu à rebrousse-poil, parce que, voilà, comme c'est une exception à notre règle de faire que des nouveaux jeux, je vais commencer d'abord à vous parler des errements d'édition du jeu, et puis de ses multiples facettes graphiques, avant de vous parler de ses règles et de ses mécaniques, et de mon ressenti. Tout ça parce que je me suis beaucoup, beaucoup interrogée sur le pourquoi ce jeu n'est pas plus connu. Donc c'est parti pour le voyage éditorial de Penguin Party. Accrochez vos ceintures.
Clac, clac.
C'est bon ?
Oui, je fais les bruitages et tout.
Parfait, parfait, parfait. Donc, Penguin Party, c'est une première version chez Amigo en 2008, avec une version multilingue, dont le français, qu'a priori c'était à celle-là que Cargo avait joué. Ensuite, ça a été c'est sorti sous le nom de Pingu en 2010 chez Amigo et Asmodée, avec une version bilingue hollandais-français, donc pourquoi c'est deux langues, on ne sait pas, similaire à la première édition, illustrée par Marcus Wagner, avec déjà des pingouins qui font des trucs un peu chelous, du Deltaplane, des trucs comme ça. Ensuite, il y a deux versions japonaises, dont une avec des singes chez One Game en 2012. Le jeu est hyper recherché, donc si vous l'avez chez vous, sachez que vous détenez une pépite et que vous pourrez le revendre assez cher. Et pour la seconde de 2015, on revient au pingouin, et là, c'est chez New Games Order que ça se passe. Changement de pays, on passe en Corée chez Hobby Game Mall en 2018, avec les illustrations de la boîte que j'ai trouvée à Essen l'année dernière, faites par Daily. Puis ça passe chez Plate en 2021 avec les mêmes illustrations. Puis Plate en fait une version avec des personnages cookies issus du jeu mobile Cookie Run. Donc là, voilà, le jeu, il n'arrête pas de changer, d'évoluer, de changer de tête. Puis une version polonaise avec des œufs façon Humpty Dumpty dans Alice au Pays des Merveilles. Et là, ça dépasse un peu l'entendement en termes graphiques. Bon, évidemment, je vous mets tout dans le billet, hein, vous verrez...
La gueule que ça a, tout ça.
La c'est... gueule que ça a. La version polonaise pèse son pesant de cacahuètes. Et là, c'est illustré par Eva Podless. Puis une nouvelle édition chez Plate en 2024, qui sera celle reprise par Yellow. À ça, on ajoute deux réimplémentations. Donc là, je ne vais pas vous parler de toutes les éditions, de toutes les multilingues, etc. Je vais vous parler que de ce qui est sorti chez nous en France. On a eu Banquise en 2007 chez Ubik, illustré par Marcus Wagner. Ici, c'est en 3D qu'on joue avec 36 pingouins en plastique un peu moche. De quatre couleurs différentes. Ah ouais, c'est vraiment, ça fait jeu jouet, ça fait un peu dégueu, quoi. Si ce n'est la couleur en moins et le matériel différent, les règles restent les mêmes. Et enfin, on a le pompon en 2014, Game of Thrones Intrigue à Westeros, avec des photos de la série chez Edge et Fantasy Flight Games. Autant le dire, c'est vraiment moche, mais vraiment hideux. Il me semble que t'as vu les photos.
Ouais, j'ai vu des photos de cette version, je ne sais pas. Si ce sont les photos qui sont les plus moches ou si c'est le cadre qui vaut tour, honnêtement. Et en tout cas, la fusion des deux est absolument hideuse.
Et puis les couleurs choisies, c'est vilain. Je ne sais même pas s'il y a une cohérence entre les familles, les couleurs choisies. Enfin bref, il n'y a rien qui va dans ce jeu-là. Il n'y a aucun ajout thématique. On aurait pu imaginer des pouvoirs liés aux personnages, etc. Que dalle. Et donc, ça sent vraiment le thème plaqué pour faire des sous. Personne ne s'en souvient, sauf mon ludicaire préféré, qui lui m'épate, parce qu'il a une mémoire encyclopédique des jeux. Mmh. Je dis pas ça parce que c'est mon patron aussi, de toute manière, il n'écoute pas le podcast, donc ça ne me permettra pas de demander...
C'est un tort, oui, je
sais bien, mais d'un autre côté, je peux dire des bêtises tranquilles, tu vois.
C'est l'avantage.
Donc, toutes ces versions, ça montre deux choses, à la fois que le jeu peine à trouver son public... on n'a pas une édition continue, mais que les éditeurs croient malgré tout en lui, car il a été trouvable de manière quasi continue quelque part sur la planète depuis 16 ans. Ce qui en fait une sorte de papy-jeu globe-trotteur, quoi.
Mmh. Après, faut pas négliger quand même l'effet Knizia, hein, qui est, y a beaucoup d'éditeurs qui veulent aller chercher un Knizia. Donc, typiquement, les éditions un peu dans des pays un peu exotiques, entre guillemets, hein, du point de vue français, il y a assez fort à parier qu'il soit allé vers lui et lui, il a dit, bah, tu vois, si le jeu il est dispo, pouf, tu vois, il va placer son jeu, quoi. C'est quand même un champion là-dedans, hein, pour replacer ses jeux, éventuellement revoir un ou deux trucs pour en faire une nouvelle référence. Il y a peut-être aussi un peu cet effet-là, quoi.
Ok, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais malgré tout, si quelqu'un voulait vraiment y jouer, en y mettant les sous, t'avais moyen de le trouver depuis 16 ans, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, au final, il a une disponibilité un peu bizarroïde, quoi, à différents points du globe, il a une certaine longévité, quand même.
Je voulais revenir maintenant, bien évidemment, sur les illustrations du jeu, parce que vous savez bien que c'est un petit peu ma spécialité. Alors tout d'abord, j'ai pensé que c'était Yellow qui les avait changés au moment de la localisation du jeu cette année. Et quand je leur ai demandé pourquoi, parce que oui, j'ai poussé un peu l'investigation à fond pour vous, mesdames et messieurs, ils m'ont dit qu'ils n'avaient fait que reprendre la dernière édition de Plate. Je me suis dit, mais la boîte que j'ai achetée l'année dernière, ça, elle n'avait pas du tout cette tronche-là. Donc pourquoi Plate, ils vendent des trucs à Essen fin 2023 et puis courant 2024, c'est pas la même boîte. Alors je vous avoue que mon investigation s'arrête là, j'ai eu la flemme d'envoyer un mail à Plate pour leur poser la question. Je sais pas trop leur niveau d'anglais et puis moi mon niveau de coréen, je sais qu'il est à zéro. Donc je vais donc spéculer. Soit il y avait un souci avec le contrat de Daily, avec des droits qui empêchaient les localisations, peut-être, voilà, qui cantonnaient la Corée, peut-être.
Ouais, c'est possible, mais c'est sur les Illus, c'est rare, hein, je crois, quand même. Mais bon.
Je pense aussi, bon après, peut-être que le droit coréen est très différent d'une autre, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit la raison, hein, mais je me disais peut-être que ça peut être ça. Ou soit... Et je pense que c'est beaucoup plus probable. Le style de Daily était trop marqué, et je vais bientôt vous le décrire, et ils se sont dit qu'il faudrait une version plus passe-partout pour l'international. Vous l'aurez compris, mon cœur chavire pour les illustrations de Daily, qui sont extrêmement kawaii, très naïves, avec presque des airs d'albums pour enfants.
Mmh. C'est vrai que ça fait très illustration jeunesse, effectivement.
Il y a un côté très naïf que je trouve délicieux. Et donc, à quoi ça ressemble? On a ces petits pingouins qui sont en noir et blanc, logique pour des pingouins. Enfin, on ne sait pas trop si c'est des pingouins ou des manchots. Moi, j'avoue que je ne suis pas très bonne en pingouins-manchots. Hein.
La question reste entière, mais voilà. Sur la boîte, c'est marqué pingouin.
C'est écrit pingouin. Ouais, mais certains, tu te demandes quand même, ils ont plus des tronches de manchots pour avoir vu la marche de l'empereur. Et... Bref. Messieurs, dames, si vous vous y connaissez dans ces oiseaux-là, n'hésitez pas à nous dire si vraiment ce sont des pingouins ou s'il n'y a pas des manchots qui se sont planqués au milieu.
Alors effectivement, parce que du coup, j'étais en train de me dire, je crois que je suis en train de dire une connerie. Et effectivement, manchot, ça se dit penguin en anglais.
Ah bah voilà. Ah bah voilà. Donc, voilà, on est foutus là.
Ouais, bah, en fait, depuis le début, on raconte de la merde, quoi, voilà. Super.
Moi, je dis des pingouins et en fait, c'est des manchots.
Après, à notre décharge, pingouin, ça se dit aussi penguin.
Ah bah, la confusion elle est au maximum.
C'est là qu'on voit la pauvreté du vocabulaire anglais, c'est triste.
Donc
c'est
triste. Peut-être que c'est un mélange des deux sur les boîtes.
Bah, je dirais que c'est des manchots en vrai, mais bon.
Là, ça ressemble plus à des manchots, ouais. On est d'accord. Mais je vais continuer à dire pingouin parce que toute ma chronique est écrite avec pingouin. Donc...
Ouais, bah écoute, je sais pas, peut-être que je ferai un effort au montage. Dis manchots de différentes façons et peut-être que je les. Tu vois.
Je vois bien le truc, ouais.
Manchot.
Ouais,
avec la voix de Google Trad, tu sais.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Manchot.
Voilà, donc on continue notre à peu près. Hein. On ne sera pas dans l'exacte exactitude dans ce coup-ci. Hein.
Merde.
Donc, c'est pingouin/manchot, c'est pingouin. Voilà, je vais dire pingouin, comme ça englobe les deux. Ils sont en noir et blanc, comme dessinés au crayon noir assez gras. Juste en quelques traits, façon un peu croquis, voilà le petit dessin qu'on fait sur un coin de feuille quand on est en cours, quoi. Donc rien n'est précis, ni léché, ça dépasse un peu de tous les côtés, c'est assez libre comme dessin. Et la couleur principale de la carte, elle viendra en aplat, c'est-à-dire sans nuance. Là encore, posée de manière un peu aléatoire sur les éléments principaux du décor de chaque couleur. Parce que nous avons 5 couleurs principales dans le jeu, les cartes sont divisées en 5 types. De 5 couleurs différentes. Donc on a un rideau de fond de scène des musiciens des cartes jaunes, on a l'igloo des cartes bleues, on a le sapin de Noël en train d'être décoré des cartes vertes, le feu de joie des cartes roses et les ballons de la fête d'anniversaire des cartes violettes. À cela s'ajoutent quelques coudes surligneurs jaunes, ouais, vraiment c'est un petit rectangle de couleurs, sur les becs pour les faire ressortir et c'est tout. C'est à la fois hyper simple, mais il y a plein de détails qu'on ne peut s'empêcher d'apprécier un peu partout dans l'image. Et la version 2024 maintenant, donc celle de Wanjin Gill, que vous pourrez trouver dans votre crèmerie habituelle, elle a fini le minimalisme avec les 3 couleurs, donc blanc, noir, le petit coup de jaune et puis la couleur principale de la carte. On a pas mal de couleurs, on a des détails, les flocons ils sont bien propres. On a quand même gardé l'esprit un peu imprécis sur le dessin des pingouins. Et les cartes, elles ont évidemment une couleur dominante, parce que c'est quand même... une partie importante du jeu et de l'ergonomie du jeu, qui va être ici traitée en camailleux. On va décliner la couleur dans différentes nuances. Et chaque couleur va évoquer un genre cinématographique ou un film. Le bleu, ça sera les pirates. Le jaune, le western. Le rouge, les films de kung-fu. Les cartes vertes sont un clin d'œil à Tarzan. Et les cartes violettes à la fièvre du samedi soir, avec une évocation non pas de Travolta, mais de Michael Jackson. Bon, vu les casseroles qui se traînent, je trouve que c'est absolument pas la référence la plus pertinente qu'on puisse trouver.
Oui, c'est vrai.
D'autant pour un jeu qui est jouable, enfin, la boîte dit 8 ans, mais on peut y jouer avec des enfants de 6 ans, donc voilà, moi je trouve que... Voilà, on aurait peut-être pu faire mieux. Donc les appels du pied vers la pop culture vont plaire très certainement au plus grand nombre, et j'avoue que si j'avais pas vu la version précédente, j'aurais été séduite.
Ouais, parce que c'est vrai qu'elle est quand même chouette, hein, cette version, et c'est pas non plus... c'est pas des illustrations style Joe Mobile ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, ça a quand même sa personnalité, quoi.
Oui, on sent qu'il y a un vrai illustrateur derrière, qu'il y a une vraie recherche graphique. C'est plus la thématique avec le côté ouais, pop culture et appel du pied, tu vois, un peu au trentenaire.
Qui est un peu...
Trentenaire, quarantenaire.
Qui enfonce un peu des portes ouvertes, quoi. Qui,
bah, c'est ça, ouais, on la retrouve dans beaucoup de jeux maintenant. Ouais, il y a Five Towers aussi, comme ça, qui est sorti à peu, où pareil, t'as plein d'easter eggs un peu partout. Et ce qui était très cool à un moment donné, je cherchais tous ces easter eggs, moi ça me fait du travail pour ma chronique, donc ça, merci de continuer, hein. Mais ça devient un petit peu trop tout le temps et des fois un peu trop appuyé et pas assez subtil.
Faut trouver autre chose, là, quoi, voilà. À un moment.
Ouais, voilà. Et donc, ce jeu, il a toujours été thématisé. Et j'espère que le maintien de ce thème plutôt que l'adoption de motifs abstraits ne le cantonnera pas aux jeux enfants et qu'il ne repoussera pas certains joueurs, ce qui serait extrêmement dommage, en fait. Enfin, voilà.
D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont réillustré le jeu, en fait, hein. Parce que justement, les illustrations, je suis désolé, j'ai mangé le nom de l'illustratrice, je crois que c'était.
Daily.
En fait, on sait pas.
Je sais pas.
Ouais, les illustrations précédentes de Plate, elles étaient vraiment très connotées illustration jeunesse. Et du coup, à mon avis, enfin, c'est clairement un move marketing, hein. En gros, pour mieux adresser la cible, voilà, on a réillustré avec quelque chose qui est peut-être un peu plus adulte entre guillemets, hein. Très familial, j'ai envie de dire. Voilà, avec ce mot qui ne voulait jamais rien dire, mais que tout le monde comprend à peu près. Voilà, ça s'adresse à un public plus large, on va dire. Et ça donne moins l'impression d'acheter un jeu effectivement pour enfants, même si c'est marqué 8 ans plus dessus. Bah voilà, les illustrations, ça joue, quoi. Et en tout cas, les éditeurs le pensent.
Oui. Après, moi, je me demande aussi si le fait que, parce qu'on est quasiment sur un jeu abstrait, le thème, une fois, enfin, vous allez voir une fois l'explication des règles, mais on s'en fout un peu.
Ouais.
Du coup, je sais pas si quelque chose de purement, de non figuratif, en fait, de purement abstrait, tu vois, des carrés de couleurs ou des trucs comme ça, n'aurait pas plu au plus grand nombre, tu vois. Du coup, un appel du pied vers les Uno, vers... je vais pas dire ce qui joue. Non, j'allais pas dire... Voilà, je voulais pas dire ce qui joue, parce que ça fait vraiment trop mal aux yeux. Ça fait saigner les yeux, ça. Et le pire, c'est que ça se vend par palette, ce jeu. C'est incroyable. Mais voilà, j'espère que justement les gens ils iront vers ce jeu, même si il y a une thématisation et que c'est pas ça qui le dessert, en fait. Enfin voilà, bref. Après ce très long préambule, hein, j'espère que vous m'en excuserez. Qu'en est-il du jeu à proprement parler? En quoi est-il original et intéressant? Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc les règles. Commencer comme ça. Déjà le matériel du jeu, c'est important pour les règles. Il y a 36 cartes pingouines à l'intérieur du jeu. Et là, la répartition des cartes est importante parce qu'on va compter quand même un petit peu dans ce jeu-là. Donc vous en avez 7 rouges, 7 vertes, 7 jaunes, 7 violettes et 8 bleus pour arriver à 36 cartes. Et que du coup, on puisse répartir ces cartes du mieux possible de 2 à 6 joueurs. Et vous avez dedans aussi des jetons pénalités qui vont venir vous faire des points négatifs. Et c'est tout. Vous avez commencé à mélanger toutes les cartes, à les distribuer. Alors là, je vais plutôt vous expliquer les règles pour de 3 à 6 joueurs et joueuses et je reviendrai sur la variante à 2. Donc vous allez distribuer toutes ces cartes. Si vous êtes à 5, il y en aura une qui restera et qui sera la carte de base de la pyramide. Une pyramide que vous allez construire en commun, sachant que ce n'est pas du tout un jeu coopératif. Et Le but du jeu va être de se débarrasser de toutes les cartes que vous avez en main, et toutes les cartes qui vous resteront à la fin de la manche seront autant de points de pénalité. Donc, le but du jeu, c'est qu'à la fin des différentes manches, vous soyez celui ou celle avec le moins de jetons de pénalité en main. Sachant qu'on fait une manche par joueuse et joueur.
Mmh, oui.
Donc 2 manches à 2, 3 manches à 3, enfin voilà, vous avez compris le truc, quoi. Alors, vous allez ériger ensemble une pyramide de 8 étages. La base de la pyramide peut accueillir n'importe quelle carte. Et on va poser ces cartes chacun son tour. Et on va commencer chacun une fois. D'où le nombre de manches égal au nombre de gens autour de la table. La première joueuse pose une première carte, et ainsi de suite. On est obligé de poser à côté, on ne peut pas faire de trou dans la base de la pyramide. Et une fois qu'il y a 2 cartes, on peut déjà commencer à monter les étages. Sachant que pour monter les étages, il faut que la carte de l'étage supérieur soit de la couleur d'une des 2 cartes en dessous d'elle. S'il y a une carte jaune et une carte bleue de poser au-dessus, je suis obligé de poser une carte bleue ou une carte jaune. On va continuer comme ça jusqu'à ce que plus personne ne puisse jouer, sachant que si vous ne pouvez plus jouer à un moment donné, vous êtes éliminé de la manche, même si vous pouvez revenir après, c'est cuit, c'est trop tard, vous n'aurez pas le droit de revenir. Et on distribue les points de pénalité, on continue les manches jusqu'à la fin de la partie. Dernière règle, c'est si vous êtes arrivé à poser votre dernière carte, eh bien vous pouvez vous défausser de 2 jetons pénalité. Voilà, toutes les règles sont dites. À 2, les règles sont identiques, sauf qu'on ne distribue que 14. On va distribuer 14 cartes à chacun des joueurs, donc il y a 8 cartes qui ne seront pas distribuées. Mmh. Et la base de la pyramide ne fera que 7 cartes. Mais sinon, les règles sont les mêmes. Donc c'est un jeu extrêmement simple en termes de règles.
Ouais, c'est clair. Mmh.
Et donc c'est très très agréable à expliquer. Un jeu très simple en termes de règles, je trouve. Et donc, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce jeu. Je crois que ça transparaît dans ce que je vous dis depuis le début. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Donc j'en suis à 21 parties de la version ramenée d'Essen et à 2 pour la boîte Yellow. J'ai joué à ce jeu dans toutes ses configurations et avec des joueurs et joueuses de 6 à 80 ans. Mmh. C'est ma belle-mère de 80 ans. Des novices, des confirmés. Vraiment tout type de joueurs et de joueuses. Et gage supplémentaire de qualité, il a été extrêmement joué lors du dernier week-end proxy jeu.
C'est voilà, vrai, c'est par des gens de qualité. Ouais, c'est un jeu. Bah moi, j'ai découvert sur un week-end proxy jeu aussi d'ailleurs, il y a quelques années. Et c'est un jeu qui, oui, il a ses petits amateurs. On fait un petit coucou à Benjib.
Ouais, qui en a lancé pas mal de parties. Hein.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui le rend aussi addictif? Bah, je pense que c'est déjà la simplicité de ses règles et que ça joue beaucoup ça. Parce que parfois, on a besoin de règles déroutantes de facilité. Quand on est fatigué, pour se reposer les cervelles entre 2 jeux complexes. Pour taper le carton à l'apéro, parce qu'on est encore à ses débuts de joueuse, parce qu'on a le cerveau ennuagé par des médicaments, parce que tout simplement, parce que, voilà, c'est cool de jouer à un jeu simple. Et je tiens à rappeler ici qu'on ne juge pas la valeur d'une joueuse ou d'un joueur à la complexité des jeux auxquels il ou elle joue, ni la valeur d'un jeu à la longueur de ses règles. Et donc je remercie Knizia d'avoir pondu un jeu d'une grande élégance, mais qui respecte l'intelligence des joueuses, car bien plus fin qu'il n'y paraît. Car il va falloir bluffer un peu, se mettre dans la tête de l'autre, compter les cartes, et c'est crucial pour s'en sortir.
Alors je précise quand même qu'on ne compte pas les cartes comme dans un jeu de plis. En fait, elles sont visibles, les cartes. Donc,
voilà, on va les décompter.
Ouais.
Et dénombrer.
Dénombrer, ouais, on peut le dire comme ça. Ouais, c'est juste pour que les gens se figurent le truc, quoi.
Toutes les cartes sont posées sur la table. Ouais, non, il n'y a pas de mémoire, et ça, c'est très très bien. Donc là aussi, ça repose les cervelles quand même. Hein. Le fait qu'on n'ait pas besoin de se souvenir de ce qui est passé. Là, tout est visible. Et donc, les choix, ils sont parfois cornéliens. Est-ce que je vais volontairement bloquer une couleur qui me reste minoritairement dans ma main pour me laisser une chance de poser toutes mes autres cartes? Les jaunes sont cuits, on a bloqué, on a fermé la possibilité de poser les jaunes. Donc, il doit rester du bleu à mes adversaires. Et donc, ils n'ont pas intérêt à bloquer la couleur puisqu'ils doivent en avoir encore. Donc je peux temporiser sur les bleus et poser du violet. Alors parfois on serre les fesses, on a le cœur qui bat un peu plus vite au moment où les autres posent leurs cartes. On va tempêter quand quelqu'un va avoir permis une couleur qu'on a encore énormément dans sa main.
Tu m'étonnes.
Et on a... Ah ouais, ça c'est... On râle, hein. C'est vraiment un jeu de râleur. Et puis on a des fois là, une espèce de béatitude qui nous submerge quand on pose sa dernière carte. Et d'autres fois, on va se congratuler parce qu'on a joué coop sans le vouloir du tout et que la pyramide s'élève fièrement, pleine et entière. Et même si ça n'a mis personne dedans, c'est satisfaisant de la voir là, toute belle et qui est montée jusqu'au bout. Et aussi, quel plaisir quand on se débarrasse de deux de ses jetons, mais quelle déconfiture quand sa main est vide au premier tour et qu'on n'a rien à défausser encore. C'est rien du tout cette règle, c'est trois lignes. Mais ça amène quand même de la tension jusqu'à la fin de la partie, et ça peut amener des retournements de situation qui sont vraiment bienvenus. Mmh. Et donc je voulais aussi, pour terminer, revenir sur le jeu à deux joueurs. Donc 8 cartes sont mises de côté et la pyramide a une base de 7 cartes. C'est inconnu des cartes écartées, à mon avis, amoindrit le jeu, parce qu'on n'a plus la possibilité de dénombrer les cartes, puisque certaines sont cachées, pour le coup, et donc tout n'est pas distribué. Et à mon sens, il y a vraiment une grande partie du plaisir qui est supprimée avec cet inconnu. Donc si vous jouez à deux, et que vous voulez jouer à un jeu de Knizia avec une partie de ces mêmes sensations, moi je vous conseille de jouer à Shoten Totten, parce qu'on va retrouver la simplicité des règles, le côté bluff léger où des fois on pose un truc pour faire croire à l'autre qu'on va faire ci ou ça, la possibilité de dénombrer les cartes, puisque là pareil, elles sont toutes visibles, et le plaisir de devoir faire au mieux avec ce qu'on a en main. Donc voilà pour Penguin Party, j'espère vraiment que cette nouvelle édition va permettre à ce jeu de s'installer durablement dans notre paysage ludique et de devenir un néoclassique à l'instar d'autres jeux de Knizia, comme Shoten Totten dont je viens de parler, ou de La Course des Tortues, qui est un classique du jeu enfant. Et une dernière chose, si vous n'avez pas de sous, parce que voilà, on n'a pas tout le temps le budget pour acheter de nouveaux jeux, je me suis demandé avec quoi on pouvait émuler le jeu, parce qu'en gros, en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein.
Non,
et je me dis
clair.
Qu'un truc peut être assez classe si vous avez des gens autour de vous qui jouent à Magic. Ils vont avoir une foultitude de terrains qui ne leur serviront à rien.
Ouais,
vous leur piquez cette île, cette plaine, cette montagne, cette marais et 8 forêts, et voilà. Et en plus, vous aurez un jeu grave stylé si vous prenez des jolis paysages.
Ouais. Tu peux même en piquer dans les boutiques, parce que les boutiques qui font du jeu de cartes à collectionner, qui font du tournoi, du jeu organisé, elles en ont un dispo.
Oui, oui. Je compte les dévaliser un petit peu.
Tu peux prendre des...
la réserve.
Tu peux prendre aussi les énergies de Pokémon, en allant par là.
Aussi. Oui, mais après, c'est vrai que nous, on a plus... je connais plus de joueurs de Magic que de Pokémon, et je trouve que les cartes terrain, elles sont quand même vraiment très belles.
Il peut y en avoir des très
t'as
très jolis.
Moyen, hein. Voilà, t'as moyen de te faire un joli jeu pour pas cher. Quoi. Ouais.
Bon, après, en vrai, avec un jeu de tarot, ça marche aussi. Hein. Il faut, t'as pas vraiment 5 couleurs, mais t'as les atouts.
Ouais,
donc, du coup,
oui. Oh ouais, mais c'est moins beau quand même.
Non, c'est sûr, c'est moins beau. Hein.
C'est moins beau.
Ouais, c'est
et puis, si vous avez un peu de sous, le jeu il est disponible pour 11,90€ chez notre sponsor à la Caverne du Gobelin.
Ouais, ça va, c'est, genre, c'est pas non plus mirobolant comme tarif, quoi.
Voilà, non, on se... Ouais, mais des fois, certains d'entre nous n'ont même pas ces sous-là, quoi. Donc,
ouais,
voilà.
C'est sûr. Ouais.
La petite astuce.
C'est toujours bon à savoir. Ouais, bah, c'est un jeu... Je te rejoins sur l'aspect très facile d'accès et en même temps assez malin. Moi, je préfère les configurations quand même assez nombreux dans le jeu. Parce que j'aime bien ce côté chaotique quand on dépasse un certain nombre de joueurs ou de joueuses autour de la table. Donc effectivement, deux, enfin moi jamais j'y jouerai à deux, c'est clair. Variante ou pas variante, je vois pas trop l'intérêt. Moi j'aime bien 5 ou 6, tu vois, parce que là ça devient chaotique. Clairement, quand tu fais un truc, le temps que ton tour revienne, les autres ils peuvent avoir tout pété, quoi. Voilà. Après,
ah oui, t'as le temps de pleurer, ouais.
Ouais, il faut être prêt à encaisser, hein, évidemment, mais finalement, je préfère l'ambiance que ça dégage, comme ça, que, tu vois, j'ai rejoué à 3 il y a pas longtemps, là, j'ai pas trop kiffé, quoi. Alors que j'avais un très bon souvenir des parties que j'avais faites précédemment. Donc, je pense que c'est vraiment la config qui joue. J'aime bien, moi, dans Penguin Party aussi le côté ouverture. Fermeture en même temps, tu vois, le jeu il joue un peu là-dessus, c'est-à-dire que quand tu poses une couleur, en gros tu vas faire des ouvertures pour les autres, surtout en bas typiquement, surtout sur le bas, si toi t'as 3 bleus dans ta main, les autres aussi ils en ont, et donc peut-être que l'ouverture que tu crées pour toi te laisser un chemin, peut-être que c'est les autres qui vont en profiter et qui vont bientôt refermer la porte derrière, donc ça c'est assez sympa, et ça crée un espèce de va-et-vient dans le feeling, tu vois, de
ah ouais, je suis d'accord.
Ouais, je rouvre, je ferme, je rouvre, je ferme.
Et puis c'est vraiment cette impression, ouais, t'as une porte qui t'a été claquée à la tronche, quoi. Et là, hey, c'est moi qui avais ouvert le truc, et ouais, boum, l'a fermé au nez, oh, tenace. Et c'est vrai que ça, c'est assez rigolo, quoi.
Et suivre le nombre de cartes qu'il est joué, c'est hyper important, parce que bah, des fois, il vaut mieux fermer la porte sur une couleur que t'as encore, si tu sais que c'est toi qui en as le moins, en fait, quoi, tu vois.
Ah bah oui, oui.
Hey. Mmh. Donc dans
oui,
ce cas
il faut
tu
des
vas...
fois sacrifier.
En différence de points, ça peut être valable.
Ouais.
Quoi.
Ah bah tout à fait, ouais. Ah oui, oui, c'est un jeu beaucoup plus calculatoire que qu'il n'y paraît en fait.
Ouais, j'irais peut-être pas quand même jusqu'à calculatoire.
Bah
mais
quand même, si, parce que tu comptes dans le sens où tu as quand même des choix, t'as des choix tout le temps ouais. Et que tu vas avoir ce truc de ah, certes, je poserai pas toutes mes cartes, mais ça me fait un point de moins, alors que lui, il en est à 5... enfin. Donc si t'as quand même t'as
oui,
quand même
mais,
un côté
c'est pas comme
beaucoup
dans
moins
un...
léger qu'on dirait quoi.
Ouais mais c'est pas comme dans un jeu tu sais quand on parle de calculatoire on voit tout de suite les jeux abstraits dans lesquels tu peux calculer plusieurs coups à l'avance. Là on n'est pas
ah
du
oui,
tout dans
non,
ce
là, tu
calculatoire
peux pas. Là. Non, non.
C'est plus au sens où oui bah il faut regarder la différence en fait de points que ça peut faire entre toi et les autres quoi. C'est, il faut pas perdre ça de tête. Il faut pas chercher forcément à vider sa main juste si tu fais un meilleur score que les autres ben voilà c'est bon quoi. En fait, ça me fait penser que, toi, ça fait typiquement partie de ces jeux de Knizia, dans lesquels il n'y a pas une profondeur stratégique énorme, mais il y a quand même un plaisir à aller chercher les petits trucs qui font que tu vas être meilleur que quelqu'un qui vient de découvrir le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même il y a le stade où tu découvres le jeu, tu joues, voilà, ça déroule, ok, c'est facile à jouer, là. Et puis, il y a le stade où tu découvres, ah, que, il y a des petites astuces quand même. Toi, Knizias, il a tendance à faire des jeux comme ça, où t'as une ou deux petites astuces. Une fois que tu les as, c'est bon, ça roule, tu vois, mais il y a ce plaisir d'aller trouver les deux, trois petites astuces tactiques à avoir dans le jeu.
Oui, et tu te rends compte que t'as quand même une évolution possible et que tu t'améliores sur ce jeu-là, alors qu'il ne paie pas de mine.
Ouais.
Et c'est vrai que ça, c'est assez chouette de sentir ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la façon dont le jeu il nous surprend, en fait. Sur un jeu avec trois règles, qui peuvent paraître un non-jeu, et ben, en fait, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand tu découvres ça, comme c'est un peu tu vois, tu passes derrière le miroir quelque part. Et moi, j'aime beaucoup cette sensation-là. J'aime beaucoup ces jeux qui nous apportent ça. C'est, tu vois, qui nous surprennent. En fait, on t'explique la règle, tu dis brof, puis tu joues, tu fais oh putain ouais c'est bien c'est malin quoi. Alors le terme malin il est souvent galvaudé mais c'est malin dans le sens où ça nous c'est un jeu qui nous prend pas pour des imbéciles quoi.
Oui c'est plus ça en fait quoi. C'est pas juste tu joues random et puis advienne que pourra quoi. Il y a quand même il y a des choses à regarder comment ça se passe autour de la table. Est-ce que les autres ont des chances d'avoir effectivement encore beaucoup de jaunes ou pas? Je ferme maintenant, j'attends. Est-ce que je vais pas en temporisant? Est-ce que je vais pas me faire fermer la couleur que j'ai le plus dans ma main? Ce genre de truc quoi. Voilà. Il y a des petits niveaux de réflexion, c'est ça. Et en même temps, ça c'est un jeu quand même hyper accessible.
Oui.
Moi, il y a quand même un truc, tu vois, que je me demandais parce que les 36 cartes, ça fait pile poil la pyramide quand même. C'est ça. Hein,
oui.
Il y a pas de bêtises. Hein. Et
oui.
Moi, je me demande si le jeu n'aurait pas été encore mieux avec un peu plus de cartes. Pour être sûr que, justement, même si la pyramide, elle se finit, tu peux te faire manger. Mais, ouais, sauf que si t'as ça...
Ah, non, parce
si
que
t'as ça, ouais, ceux qui sont derniers, ils se font avoir, quoi.
Ouais, ouais t'as ce côté, pas. Quand même, de pouvoir et puis, c'est satisfaisant, malgré tout, quand tu poses cette dernière carte et que tu finis la pyramide. Mmh. Et que tout le monde a posé toutes ses cartes, mais il y a quand même quelque chose de chouette dans la création commune, et... Même si c'est un jeu compétitif, il y a des fois tu joues presque coop et c'est aussi agréable. Enfin, je sais pas comment dire.
Je comprends ce point. Ce que j'évoquais, c'est autre chose. Hein.
C'est le truc de pouvoir forcer tout le monde à mettre tout le monde dedans. C'est ça que tu veux dire.
Ouais, c'est ça. C'est d'être sûr en fait qu'il y ait des gens qui soient dedans. Quoi. En fait, qu'en gros, il y ait trop de cartes, un peu comme dans Cat in the Box, si tu veux. Dans Cat in the Box, ben à un moment, en fait. Les joueurs, ils peuvent plus jouer, quoi. Et t'as beau aller enfin, ouais, c'est pas encore exactement pareil dans Cat in the Box.
Ouais, ou dans Wizard. Dans Wizard, quand tu comptes, quand tu donnes quand chacun fait ses paris sur les plis, Le dernier
oui,
qui parie,
c'est pas possible que ça marche, quoi. Oui,
voilà,
ça.
Il est obligé de faire de dire un truc qui tombe pas juste,
ouais.
Pour qu'il y ait forcément quelqu'un dedans.
Ouais, moi je pense que je préférerais ce genre de sentiment en tout cas. Je sais pas du coup comment il faudrait le faire, mais effectivement ma méthode elle marche sûrement pas bien. Il faudrait ajuster des choses, mais tu vois, j'avoue que je préférerais ce sentiment.
Là, d'un point de vue mathématique, 36 c'est quand même le nombre de cartes qui te permet de tomber juste à plein de joueurs, quoi.
Ouais. Bon, ce qui du coup reste assez peu probable, quoi. Si les gens jouent pas trop gentillés, effectivement.
Ouais, moi ça m'est pas arrivé très très souvent, hein, qu'on aille au bout de la pyramide. Peut-être plus quand on y joue avec des enfants plus jeunes, au début, où on fait pas trop les enfoirés. Puis dès qu'ils ont pigé, dès qu'eux ils commencent à ouvrir les hostilités, là il n'y a plus de quartier par contre. Et bizarrement, ils ouvrent assez vite les hostilités, parce qu'ils pigent vite quand même cette idée de bloquer les couleurs et de t'emmerder.
Bah oui, ça revient à ce qu'on disait, effectivement, quoi.
Donc voilà. Du coup, je vais refaire la petite fiche signalétique. C'est Penguin Party, un jeu de Rainer Knizia, illustré par Wanjing Gill. C'est édité par Yellow, et c'était au départ chez Play, éditeur sud-coréen, pour 2 à 6 joueurs et joueuses, à partir de 8 ans, d'après ce qui est marqué sur la boîte, mais vous pouvez jouer avec des enfants de 6 ans, et 30 minutes grand max de partie, et c'est disponible à la caverne pour 11,90€. Voilà, vous savez tout.
Super. Mais merci beaucoup, Elodie.
Eh bien, avec plaisir. Et toi, Cyrus, tu vas nous parler de quel jeu ?
Eh bien, moi, je vais parler de Littoral.
Moi aussi, je sais faire des bruitages.
Alors, Littoral. Note du monteur. Profitant de la mi-temps, le micro d'Elodie a décidé de faire une petite pause et a chu, entraînant sa déconnexion de l'enregistrement et nous basculant sur le micro de la webcam, mais tout cela bien sûr sans s'en rendre compte. Donc désolé par avance pour la qualité du son qui sera moins bonne dans la suite de cet épisode du côté d'Elodie. C'est un jeu de... alors, je ne sais pas comment ça se prononce, tiens. De Brian, ça, je pense que ça se prononce comme ça. Brian Burgoyne, je ne sais pas. Burgoyne. Mais a priori, c'est un Québécois. Donc, je pense que je vais dire Burgoyne. Donc, Brian Burgoyne, illustré par Fanny Saulnier. C'est un jeu qui est édité par Randolph, donc l'éditeur, hein, qui est issu des cafés-jeux québécois du même nom. C'est distribué, il me semble, en France par Gigamic. En tout cas, c'est la branche, c'est du Hachette.
Ah ouais, c'est Gigamic.
Ouais, tu confirmes. Ça se joue de 1 à 5. C'est recommandé à partir de 8 ans. Les parties sont annoncées pour 20 minutes. Et c'est en vente à 23,90€ chez notre sponsor, la Caverne du Gobelin. Alors, Littoral, bah, c'est un jeu qu'on a découvert ensemble, je dis pas de bêtises.
Alors, on l'a découvert le même jour, mais nous étions pas ensemble.
Ah, mais pas ensemble. Ouais, pas ensemble, ok. J'avais un doute. J'ai parfois du mal à retrouver les, parce que des fois on échange avec les gens sur les jeux et puis effectivement t'as raison, on l'a découvert le même jour à Cannes cette année. En fait, il était présenté en avant-première, donc ce qui fait que j'ai pu avoir une boîte parce qu'il était vendu en avant-première sur place avec une version anglaise, mais bon, il finit les règles en français et puis vous allez voir, les règles elles sont quand même pas bien folles.
Moi aussi, je les
Et c'est un jeu du coup, bah ça fait longtemps que j'attends d'en parler dans les jeux du mois. Clairement, j'ai pris une option dessus assez vite. Et bah comme il n'était pas sorti tout de suite, il est sorti quand même au mois de juin au final. Mais voilà, il a fallu attendre la fin de l'été pour que je puisse vous en parler. Et donc c'est avec une grande hâte et une grande joie que je vais me faire un plaisir de le faire. Alors qu'est-ce que c'est Littoral ? C'est alors moi c'est un jeu que je classe quand même dans la catégorie des jeux de stop ou encore des jeux de prise de risque. Alors, dans ce jeu-là, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, on va piocher des jetons dans un sac. En fait, il y a plein de jetons dans un sac, des jetons en bois. Ces jetons-là, ils ont deux faces. Et quand on va piocher donc un jeton, on va regarder les deux faces et on va choisir quelle face on va jouer. Et on va donc ensuite appliquer l'effet de la face. Il y a deux grandes catégories de jetons. Il y a des jetons avec un bord bleu. Quand on joue un de ces jetons-là, on va le mettre au milieu de la table, dans ce qu'on appelle la mer, et on va rejouer. Voilà, donc les jetons bleus, on les met dans la mer, on rejoue. Et après, il y a des jetons avec un bord blanc. Donc ceux-là, on va les poser sur notre littoral. Donc c'est une zone de jeu qui est devant nous. C'est là où on place nos jetons. C'est notre petit trésor, j'ai envie de dire. Et on va faire l'effet. Hein, et ça mettra fin à notre tour. Voilà. Donc en gros, bah, soit on pioche des jetons bleus, enfin soit on choisit de jouer des jetons avec la face bleue et ça nous fait rejouer, mais on alimente la mer, on va mettre des jetons dans la mer, soit on décide de s'arrêter et on va faire un effet qui va nous faire collecter des jetons sur notre littoral. Et bah, en fait la partie va s'arrêter lorsqu'il y aura plus de jetons dans le sac. À ce moment-là, on va regarder qui est le joueur ou la joueuse qui a le plus de vagues. Donc c'est une des phases possibles, hein, c'est une des capacités. Celui qui a le plus de vagues sur son littoral, donc des jetons avec des vagues, il va récupérer tout ce qui est au milieu, donc qui traînerait encore dans la mer. Ça peut être beaucoup de jetons, ou pas beaucoup, voire rien parfois.
Rien, ouais. Hein. Voilà, donc ça fait la collection des vagues, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien, c'est la dèche, c'est la misère, t'as tout misé là-dessus et c'est râpé. Et ensuite, bah, on va simplement rassembler les jetons qu'on a devant nous. On va faire une pile et on va chacun avancer sa pile et comparer les hauteurs et bah, celui qui a la pile la plus haute l'emporte. Voilà. Donc pourquoi celui que c'est un jeu de stop ou encore? Parce que en fait quand je tire un jeton donc sur les deux faces, j'ai une face bleue et une face blanche. Bah globalement, mettre une face bleue, c'est alimenter la mer, mettre des jetons dans la mer, et c'est peut-être du coup, une fois que je vais faire mon effet blanc, récupérer encore plus de jetons que ce que j'aurais pu récupérer. Puis au premier coup, j'avais choisi effectivement la face blanche, quoi. Donc il y a ce côté, est-ce que je continue à alimenter des jetons dans la mer, qui bah, vont peut-être me profiter, mais peut-être profiter plutôt aux autres, hein. Ou alors est-ce que je m'arrête là? Et c'est vrai que c'est un jeu qui a fait pas mal pensé récemment à Captain Flip, parce qu'il y a ce côté aussi, tu vois, avec les tuiles recto verso, c'est marrant quand même, t'as deux jeux comme ça qui sortent d'affilée. Ouais. Pourtant, il y a quand même pas la même dynamique de jeu, c'est quand même des jeux qui se placent pour moi dans la catégorie des jeux de prise de risque, mais là où il y a une grosse différence quand même, c'est que le côté prise de risque dans Littoral, c'est vraiment, c'est je continue à piocher, je pioche, je pioche, je pioche, je continue à piocher, alors que dans Captain Flip, en fait, c'est vraiment, est-ce que je retourne ma tuile ou pas? Je vous renvoie vers l'émission des jeux du mois dans laquelle c'est BenoFX qui avait présenté Captain Flip. Et donc bref, dans Captain Flip, c'est vraiment est-ce que je retourne ou pas mon jeton? Parce qu'au début, bah, je peux regarder qu'un seul des deux côtés. Est-ce que je le retourne? Et dans ce cas-là, je vais être obligé de faire l'effet qui est derrière et c'est peut-être finalement pas un effet que j'aurais souhaité, quoi. Clairement, on n'est pas du tout dans le même feeling de jeu, moi je trouve.
Ah, pas du tout.
Parce que, comme je disais, en fait, dans Littoral, c'est plutôt le côté la prise de risque, elle est plutôt le côté insidieux que tu sais c'est pas un gros stop que tu vas te prendre quoi. C'est plutôt en fait si tu vas trop loin, tu risques vraiment de donner trop de points aux autres.
C'est ça, tu fais des gros cadeaux aux autres. Ouais. Ouais,
ouais. Ouais, c'est ça effectivement, mm-hmm. C'est plus tu fais des cadeaux ouais. Ouais, c'est très bien dit comme ça. Hein.
Tu remplis la mer pour les autres. Mm-hmm.
Ce qui est assez cool aussi dans Littoral, c'est ce côté bingo. Tu sais, c'est un peu le, pour moi, c'est un peu le plaisir simple, toi, du jeu, le bingo. C'est cette attente que t'as quand tu pioches. C'est un truc que tu peux trouver dans Captain Flip aussi, tu sais, l'attente de piocher le bon truc. Ouais. Mais je trouve que c'est vachement plus fort dans Littoral parce que dans Littoral, t'es vraiment ok. Là, il me faut un isopode, j'en reviendrai un petit peu après sur les différents effets, il me faut un isopode, il m'en faut encore un, et après comme ça je pourrais avoir un bécasso pour aller récupérer les isopodes, bon, on comprend que c'est des effets qui vont, des trucs qui vont ensemble quoi, et ça se rapproche plus je trouve d'un jeu comme Charlatan de Belcastel, où dans Charlatan tu fais ton propre sac, il y a un côté backbuilding hein, qu'on n'a pas du tout dans Littoral, hein. Dans Littoral c'est vraiment un sac qui est partagé entre tout le monde, dans Belcastel tu vas piocher dans ce sac et tu vas espérer choper le bon effet derrière parce que des fois t'as des trucs qui s'enchaînent aussi, tu sais, t'as des, je me rappelle plus exactement,
oui, les champignons qui vont avec je sais plus quoi, j'espère vraiment que les champignons ils vont sortir,
ouais, t'as des trucs qui sont mieux à tomber avant d'autres trucs,
carrément.
On retrouve un petit peu ce côté là avec dans Littoral, il y a moins ce côté couperet, le stop du stop ou encore qui est vraiment ok, là je suis allé trop loin, j'ai fait une connerie, du coup je perds vraiment des trucs. Ça dans Belcastel tu l'as quoi, t'as vraiment le côté si tu continues à piocher tu vas exploser, c'est ton chaudron qui explose et là c'est la loose quand même. c'est pas bon.
Ah non, c'est pas rigolo quand le,
voilà,
ouais.
Et donc il faut bien comprendre que dans Littoral il y a pas ce côté là c'est vraiment le Littoral, c'est encore une fois, c'est plus le côté insidieux, c'est en fait tu t'en rends pas compte mais à piocher comme tu fais là, t'es en train de faire des cadeaux aux autres. Et ça, c'est un truc qui va se passer autour de la table. On va inciter les gens à continuer à piocher parce qu'on espère qu'ils vont nous mettre plein de trucs au milieu dont ils veulent pas, mais que nous on veut.
Et c'est qui vont nous faire plein de cadeaux.
Et oui, c'est ça. Et moi c'est le genre de jeu que j'adore. C'est-à-dire qu'en fait moi je suis vraiment dans la team encore, moi, dans les jeux de stop ou encore, et je suis dans la team aussi des pousses au crime. C'est-à-dire que j'adore aller attiser les autres pour qu'ils continuent à jouer. Et là, il y a vraiment cet effet où les gens, ils se sentent pas forcément que, comme il y a pas le coup près, il y a pas le stop, tu vois. C'est vraiment un effet de, tu fais des cadeaux aux autres, ça marche plutôt pas mal, quoi, dans ce genre de jeu. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup.
Ouais, c'est un jeu généreux.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Je trouve que il y a ce côté assez généreux, effectivement, dans le jeu. Ouais. T'as tout à fait raison. Je voulais parler aussi d'un autre truc qui m'a beaucoup touché dans ce jeu-là. C'est son élégance. C'est un jeu avec une mécanique ultra simple. C'est, tu pioches un jeton, il est bleu, tu rejoues, il est blanc, tu t'arrêtes et tu fais l'effet. Voilà. Alors après, il y a les effets, hein, je vais y revenir, hein, mais il y a des effets, ils sont, et moi je les trouve intéressants. Mais, tu vois, pour continuer dans cette vibe de l'élégance, la mise en place, c'est zéro, quoi. Tu prends le sac, alors éventuellement, si t'es pas 5 ou 4, je me rappelle plus précisément, il faut que t'enlèves des jetons. Waouh. Trop dur.
Alors, ils disent un nombre de jetons, mais à Cannes, ils enlevaient des poignées.
Ouais, oui, parce qu'en fait, dans la règle, ils te disent, je sais plus, entre 10 et 15, ou 15, entre 15 et 20, je sais plus.
Ouais, voilà. Mais en gros, t'enlèves deux poignées, et puis, basta.
Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, tu regardes une fois quand tu prends une poignée combien ça fait, et puis c'est bon, tu sais faire la mise en place, toi. Et donc.
Tu peux même jouer avec tout si t'as envie d'une partie un peu plus longue à deux.
Ouais, en vrai, tu peux,
tu peux laisser, en fait, tu fais ce que tu veux, en fait. Encore même sur la mise en place, généreux, en fait.
En vrai, ça change rien, quoi. Ça change que dalle. Le comptage, c'est pareil. C'est ultra simple. Enfin, tu vois l'élégance du truc. En fait, t'es à la fin de la partie. Les jetons, bah, tu les as ramassés, de toute façon, sur le littoral. Ils sont devant toi. Tu les empiles. T'avances. Tu regardes qui a la pile la plus haute. Et à la fin, pour ranger, qu'est-ce que tu fais? T'attrapes les piles, tu les fous dans le sac. Enfin, tu vois, il y a même une élégance dans l'aspect ergonomique. C'est-à-dire, en fait, tout est ultra simple, tout vient tout seul, quoi. T'as rien besoin d'expliquer, y a pas de mise en place fastidieuse. Ouais, c'est l'élégance, quoi. D'ergonomie, de tout ça, c'est. Et après, bon, en plus de ça, je trouve qu'au niveau des illustrations, enfin, t'en parleras mieux que moi, mais là aussi, ils ont fait quelque chose de sobre. Enfin, je trouve qu'il va bien aussi dans cet esprit de, on veut un jeu élégant. C'est sobre, voilà, c'est sobre dans les mécaniques, c'est sobre dans le matériel, c'est sobre dans les illustrations, c'est sobre dans l'ergonomie que ça met en place. Il y a une espèce de cohérence d'ensemble que je trouve assez incroyable et que je trouve vraiment rare dans les jeux de société, quoi.
Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, ouais.
Presque dans la vibe finalement d'un jeu abstrait, tu vois.
Oui.
C'est ce que je suis en train de dire, toi, je suis en train de réaliser finalement, c'est ce qu'on pourrait dire d'un jeu abstrait. Encore, même dans un jeu abstrait, il y aurait de la mise en place souvent. Enfin, ça dépend lesquels. T'as des jeux dans lesquels qui sont ultra élégants ou dans lesquels, ben, en fait, il y a pas de pion mis au début, donc du coup, toi, l'élégance, elle est là aussi, c'est-à-dire que dans la mise en place aussi, ben, comme il y a pas de pion placé au début, ben, finalement, tu les prends de la réserve et tu les places. Ouais, c'est un côté jeu abstrait. D'ailleurs, je pense qu'ils sont peut-être aussi inspirés de ces aspects-là, quoi. Toi, le matériel en bois, les jetons sont en bois. Ils sont peut-être allés aussi de ce côté-là au niveau des influences esthétiques, matérielles.
Ouais, je pense aussi que le côté jeu en bois, jetons en bois verni, c'est aussi pour que tu puisses y jouer à la plage et que du coup, il y ait vraiment ce côté.
Ouais, il y avait
lien entre thématiques.
Ouais. Là aussi, ouais, qui joue dans la cohérence jusqu'au bout, quoi. C'est, ouais.
Eh ben, moi, franchement, à la boutique, alors d'ailleurs, j'espère qu'il sera revenu en stock parce qu'il était hors stock. En...
Ah ouais, d'accord, chez le distributeur.
Ouais. Et moi, je le vendais comme ça. Les gens, ils venaient, ils me demandaient un jeu d'apéro. Je leur disais, prenez ça. La mise en place, vous posez le sac au milieu. Et si vous renversez vos bières dessus, c'est pas très grave.
Ah ouais, non, carrément. Hein. Ouais, c'est vrai.
Ça se nettoie. Et juste en disant ça, je te raconte même pas combien j'en ai vendu.
Ah ouais. Ouais, comme quoi, ce genre d'argument, ça peut marcher. Ouais.
Bon, après, j'expliquais les règles, évidemment. Mmh. Mais le côté aussi que nous, ici, on est dans une région de grand vent.
Ah oui,
jeux
ouais.
s'envolent pas. On a pu jouer dehors à ce jeu-là.
Tu sais que c'était des vraies réflexions de l'auteur. Hein. En fait, l'idée du jeu, a priori, elle est partie de ça. Alors, bon, je fais la petite histoire vite fait. J'avais pas forcément prévu d'en parler. A priori, il a eu l'idée du jeu lors d'un voyage aux îles de la Madeleine. Donc, c'est une île québécoise. Hein. Donc, à la plage, tout ça. Et il s'était dit, ah, il faudrait qu'on puisse jouer là à la plage, même s'il y a du vent, parce que là, il y a du vent et tout. Il faudrait qu'on ait des jeux qui puissent faire ça, quoi, tu vois. Donc, il y avait vraiment cette idée.
Quand tu vis dans une région de vent et que c'est quand même cool de jouer dehors quand il fait bon et que t'es bien, enfin, voilà, à l'apéro, et ben, t'es vite emmerdé. Hein. Nous, même les tuiles de Carcassonne, elles s'envolent. Donc c'est le premier truc quand j'ai vu le jeu avec elle, je me suis dit putain, on pourrait y jouer.
Écoute, c'est un argument comme un autre.
Eh ben, si c'est un bon jeu, c'est okay. Cool. Et donc comme c'est un bon jeu, ben, voilà, il est parti.
Ouais. Il y a effectivement des arguments marketing derrière que tu cites, mais tu fais bien de les citer après tout. Hein. C'est vrai que j'étais pas forcément parti pour spécialement en parler, mais ou de façon anecdotique, mais oui, non, t'as tout à fait raison. Hein. C'est vrai.
Non, et c'est rigolo qu'en plus l'auteur se soit, enfin, ait pensé à ça en créant le jeu, quoi.
Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Après, je peux pas vérifier la véracité de ses propos.
Ah bah non.
Ouais.
Personne ne peut en parler.
Que je voulais aussi raconter sur le jeu. Je vais parler quand même vite fait des effets. Bon, il y en a pas beaucoup, sans spécialement les détailler. Mais ce que je trouve bien dans les effets, parce que c'est quand même un jeu. Finalement, c'est un jeu qui a un petit aspect collection quelque part, tu vois. Mmh. Et moi, je déteste les jeux de collection. Faut le savoir. Je n'en peux plus de ces jeux dans lesquels il faut à la fois avoir un truc de chaque couleur, mais en même temps avoir la majorité dans une couleur pour marquer des points, et en même temps il faut faire un autre truc en pyramide, et l'autre truc il faut, enfin tu vois, en fait c'est tout le temps les mêmes trucs de scoring et j'en peux plus. Il y a un truc, il faut faire des paires de tout milieu, l'autre il faut faire, voilà, non mais juste arrêtez. Et en fait là je trouve qu'il y a des effets qui sont plutôt originaux. T'as les crabes, c'est peut-être le moins original. Il faut avoir deux rochers pour que tu puisses vraiment faire l'effet et récupérer les crabes. Ah, donc en fait, oui, parce que en gros, il y a les trucs blancs, c'est des machins qu'on trouve effectivement sur le littoral, et les trucs bleus, bah, c'est des bestioles qu'on trouve dans la mer, quoi. Voilà. Et donc les crabes, eh ben en gros, ils vont être attirés s'ils ont un milieu qui est favorable, et donc ils aiment bien les milieux entre deux rochers, hein, parce que ça crée des petites mares, et donc ils viennent se mettre là-dedans. Voilà. Donc du coup, il faut deux rochers. Voilà, pour que tu puisses attirer des crabes.
Et en piquer un,
Ouais, voilà. Je trouve que c'est pas suffisant, en fait, en piquer un. Tu vois, si je devais reprocher un truc, je trouve que c'est pas assez fort d'en piquer juste un. Je trouve c'est un peu petit bras, mais bon.
C'est parce que c'est un jeu gentil.
Oui, mais voilà, c'est ça. Et moi, j'aime bien les jeux méchants. Et, donc ça, c'est la façon dont on récupère les crabes. Après, il y a un système avec les plages. Donc quand on prend une plage, on va récupérer des coquillages dans la mer. Et les coquillages, on va les récupérer, en fait, si on a une plage, on récupère un coquillage maximum. Si on a deux plages, on récupère deux coquillages maximum. Si on a trois plages, trois, etc., etc. Donc là, il y a un système vraiment presque d'engine building, tu vois. Ça va monter en puissance. Plus on a de plages, si on joue là-dessus, plus on a de plages, plus on peut ramasser de coquillages. Et du coup, tu peux faire des coups. À la fin, tu prends juste une plage, tu ramasses quatre coquillages, voire plus, quoi. Et ça, tu vois, c'est pareil. Finalement, c'est pas va chercher des jeux avec des systèmes comme ça, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, qui mélange déjà ces deux aspects-là, bah c'est pareil. Je vous mets au défi de m'en trouver. Moi, j'en ai pas. J'ai certes pas beaucoup cherché, mais j'en ai pas qui me sont venus en tête. Et le dernier effet, c'est donc les bécassos. Donc c'est un oiseau. Le bécasso, bah lui, il va manger des isopodes. Alors, c'est pareil, c'est des bestioles. Il y a que en jouant à littoral qu'on apprend le nom de ces bestioles. Bon. Les bécassos se nourrissent d'isopodes, et comment ça marche? Quand j'ai un bécasso, je peux prendre autant d'isopodes que je veux dans la mer. Autant que je veux. C'est open bar.
Open isopode.
Ouais, c'est le buffet, c'est le buffet dans les...
À volonté.
Le buffet à volonté, voilà, c'est ça, je cherchais. Mais, si à un moment, t'as un deuxième bécasso, la façon dont je l'explique, moi, c'est... en fait, si t'as un bécasso qui a bouffé trois isopodes, tu vois, il est déjà bien dodu, quoi. Hein. Si après, tu prends un bécasso qui bouffe deux isopodes, bah, au moment où il va arriver sur la plage, il va se retrouver face au bécasso qui a bouffé trois isopodes, il est plus costaud que lui, il le chasse. Tu vois. Donc...
En fait, l'expliques pareil.
Ouais, tu l'expliques pareil.
Ouais.
Et en fait, tu peux garder qu'une taille de bécasso. qu'une hauteur de bécasso. Donc si tu fais un autre bécasso qui en a bouffé 3, je crois que c'était ça mon exemple, hein, je dis le premier, qui en a bouffé 3, bah c'est bon, il arrive sur la plage, il se retrouve avec un copain à lui qui est de la même taille, donc bon, il se cherche pas de noise, quoi. Bah ça aussi, tu vois, finalement, plutôt original, en fait, comme système de, à la fois de prise et de collection, quoi.
Mmh. Voilà. Et tu peux aussi l'utiliser, le bécasso, pour virer des isopodes pour les autres.
Ouais, tu peux faire ça, ouais. Ouais. C'est vilain, mais ouais. Parfois tu fais ça. Fois, ouais.
Ouais.
À prise égale, bah des fois tu fais ça, ouais. Ouais, effectivement. Ouais. Et enfin, donc le dernier effet, c'est la vague. La vague, elle va permettre de retourner une plage sur notre littoral, donc un jeton plage. Rappelez-vous, hein, les jetons, on regarde les deux côtés, mais on n'a pas besoin de se souvenir. C'est-à-dire que si sur notre littoral on a une plage, on a un jeton plage, on a le droit à tout moment de regarder ce qu'il y a en dessous. Et donc la vague, elle permet de retourner un de ces jetons et du coup de faire l'effet qu'il y a en dessous. Donc ça peut permettre de faire des petites combos. Parfois, on retourne un jeton pour pouvoir rejouer. Donc c'est un jeton qui va dans la mer, mais du coup il nous permet de repiocher et d'aller chercher vraiment le truc qu'on cherche. Parfois, en dessous on a un rocher, et du coup ça nous fait le deuxième rocher pour récupérer les crabes. Et parfois, en dessous des plages, il y a d'autres vagues. Et avec une vague, on retourne notre plage. Et parfois, il y a une autre vague sous l'autre plage, et ainsi de suite. Et là, ça peut créer cet effet en fin de partie, puisque à la fin de partie, c'est celui qui aura le plus de vagues sur son littoral qui va pouvoir collecter tout ce qui est au milieu. Et là, tu peux avoir un vrai retournement de situation dans la partie, et qui est vraiment pas si rare que ça, où quelqu'un, donc à la fin, a choisi de retourner ses plages pour faire apparaître des vagues, et du coup se retrouve avec plein de vagues et va ramasser tout le pognon au milieu, enfin tout le
la mer.
Ouais, il va vider la mer. Il va vider la mer et récolter tous les jetons qui sont au milieu. Et je trouve que ça crée un vrai climax dans la partie. Il y a toujours ce moment où on se regarde à la fin, tu vois, est-ce qu'il y en a un qui a gardé des vagues sous ses plages, qui va avoir la capacité de les retourner pour les révéler, etc. Je trouve ça vraiment top, il y a une vraie montée en puissance dans le jeu comme ça, et ce moment de climax, c'est pas tous les jeux qui sont capables de faire ça, et celui-ci, il le propose.
C'est délicieux ce moment-là, quand tu sais que t'as toutes tes vagues dessous, et que la mer, elle est pleine là, que là,
ouais.
tu lances le petit sourire en coin, et les autres se disent, merde.
Et ça marche aussi dans l'autre sens finalement, quand tu vois quelqu'un, tu vois, qui a des vagues, et finalement, on arrive à vider la mer avant, qui se servent, tu vois, c'est assez jouissif aussi, quoi. Et moi, j'ai toujours intuité, j'ai fait quand même 25 parties même du jeu, j'ai toujours intuité que, quand même, ça me donnait l'impression qu'en dessous des plages, il y avait un peu plus de vagues que du reste, quoi, tu vois. Du coup, je suis allé regarder les arcanes du jeu. Hier, j'ai retourné tous les jetons pour voir, enfin, j'ai sorti tous les jetons sur la table et je les ai tous étalés pour voir ce qu'il y avait en dessous de tous les trucs. Et effectivement, il y a une vraie recherche en fait dans ce qui est plus ou moins fréquent en dessous des jetons, quoi. Et donc en dessous des vagues, il y a un petit peu plus de plages. Enfin, et vice versa, vous aurez compris.
C'était l'impression que j'avais eu aussi, et moi j'en suis à 37 parties.
Ouf, ah ouais, tu m'as battu. Ouais. Et donc effectivement, ça veut dire qu'il y avait vraiment cette recherche de l'auteur dans le jeu d'aller proposer cette option et ce climax de fin de partie. Et je trouve ça cool que ce soit pas juste un petit effet random. Non, il y a une vraie réflexion derrière pour que les joueurs viennent ressentir ce truc-là. Et c'est pareil, il y a un tout petit peu plus d'isopodes sous les bécasso et un peu plus de crabes sous les rochers, qui sont les trucs qui se répondent. C'est-à-dire que quand t'as un bécasso, c'est pour prendre des isopodes. Donc du coup, il y a ce côté, ok, j'ai un isopode ou un bécasso. Donc est-ce que je me sers tout de suite ou est-ce que je remets du coup un isopode de plus dans la mer pour peut-être rechoper un autre bécasso plus tard et avoir un bécasso plus gros, quoi. Et pareil avec les crabes. Donc tu vois, il y a vraiment cette recherche de positionner les joueurs et les joueuses face à un petit dilemme avec leurs jetons, quoi.
Oui, c'est là que le stop ou encore prend toute sa saveur, quoi.
Exactement.
Que vaut mieux un tien que deux tout le rat.
Exactement, c'est ça. Et alors, tu parlais d'un jeu généreux, et alors, tu vois, c'est pas sous cet aspect-là que je l'avais écrit, mais moi, je trouve que c'est un jeu dans lequel il y a énormément de partage. C'est-à-dire que, déjà, un truc con, mais on joue avec une réserve commune. Et cette réserve commune, elle va nous faire créer une sorte de mini-écosystème avec des flux et des reflux. C'est-à-dire que tu vas tantôt alimenter la mer, tantôt la vider. Il y a ce vrai truc en fait qui se passe, enfin moi à toutes les tables, à chaque fois que j'ai montré le jeu, tout le monde a un moment cette réflexion de dire attends, t'es en train de vider la mer là, T'as pas honte? Tu sais, y a ce petit truc. T'as pas honte? T'es en train de vider la mer, t'es en train de vider les ressources. Et il y a ce retour quand même à notre vraie vie, à se dire, attends, je pense qu'il y a un vrai message quelque part dans ce jeu. Volontaire ou pas, je sais pas, mais il y a un vrai truc qui se passe quand même. Il y a un moment, tu dis, le jeu en fait est en train de nous mettre face à ce qu'on fait nous humains dans la vraie vie et face à notre sensibilité écologique éventuellement. En tout cas, enfin moi je suis très sensible à ce message-là et clairement je l'ai vraiment reçu quoi. Tu te poses la question. Après, ça reste un jeu, hein, donc voilà, on est en train de juste collecter des jetons, donc tout va bien. Mais je trouve quand même intéressant que quand tu joues, tu te poses la question, quand même tu dis ah putain, on est en train de vider la mer là. Et après c'est pas grave, tu passes au jeu, y a pas de souci, toi. Moi j'ai aucun problème, hein, j'ai aucun problème à vider la mer après. Je vais en jouer
pareil,
à littoral.
Mais
je trouve ça intéressant quand même que le jeu te dise, hey, vous avez vu ce que vous faites et viennent du coup nous raccrocher comme ça à la réalité de notre monde. Quoi. Après oui, bah sur le partage, soit tu l'as dit, ce côté ouais, c'est un jeu d'apéro. Toi, il y a une espèce de logique dans tout ça. Il y a une cohérence, hein, c'est ce que je disais. Il y a une forme de cohérence dans le jeu qui est complète. Pour moi, c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé ce jeu. Moi, j'en démords pas. C'est un jeu que j'ai sorti partout. Ça a accompagné toutes mes sorties depuis que je l'ai acheté à Cannes. Hein. Des week-ends en famille élargis. J'ai les beaux-parents, mes parents, tout ça. Tous les ans, je fais une balade à vélo avec des potes. C'est le jeu que j'ai emmené. Et on l'a sorti. On l'a sorti au resto, on l'a sorti dans le train. C'est marrant d'ailleurs, on était sur un carré dans le train. On était quatre. Et il y avait un gars à côté, il était tout seul sur un clair aussi, puis du coup je voyais qu'il nous regardait, je dis mais tu veux faire une partie, tu vois, il a fait une partie avec nous, enfin c'était cool quoi. Et on l'a emmené en vacances, j'ai testé du coup est-ce que ça joue vraiment à la plage, tu vois,
je me suis dit ah, il faut du train, t'as emmené en vacances.
Non pardon, oui, la transition était mauvaise. Mais oui, on est devenus super potes et tout. Non mais du coup j'ai emmené le jeu aussi en vacances à la plage, où je lui dis mais attends, il faut que je teste, tu vois, faut que je puisse dire dans les jeux du mois si ça joue vraiment bien à la plage ou pas. Et alors ça joue bien à la plage, mais il y a un truc qui marche moins bien, c'est quand tu fais ta pile et que tu essaies de la comparer à la fin. Parce que quand tu es sur une serviette de plage, sur le sable, bah, il faut avouer que ça marche moins bien.
Ah bah ça, faut jouer à la variante. Tu fais tomber ta pile, t'as perdu.
Ah oui, d'accord, ok.
C'est la variante qu'on avait avec ma nièce. D'accord. Quand on jouait à deux avec tous les jetons, et ben tu fais tomber ta pile, t'as perdu. Du coup, on faisait hyper, hyper, hyper attention.
Enfin bref, c'est un... C'est un jeu qui a provoqué beaucoup de trucs chez moi quoi. Je trouve que il y a aussi quand on parle de la cohérence avec le thème, il y a aussi cette gestuelle que je trouve vachement en adéquation avec le thème. Moi, la première partie que j'ai faite, j'ai vraiment l'impression qu'on était à la pêche à pied et que tu sais quand tu mettais les jetons dans la mer, en fait on avait ce mouvement de les jeter, tu vois. Pas juste
oui,
de
les
poser.
Tu les poses pas délicatement. Ouais. Tu les poses pas, tu t'en débarrasses.
Et t'as tendance à les jeter un peu. Alors, bien sûr, tu les jettes pas de 3 mètres, hein, mais, tu t'en débarrasses. Tu fais, ah, ben ça, en fait, j'en veux pas. Et il y a vraiment ce truc de, comme si t'étais, à la pêche à pied, t'es en train de ramasser des trucs, tu grattes le sable, t'es dans les petites mares, là, puis tu ramasses des trucs, il y a des trucs que tu veux pas, tu les jettes. Et je lui dis, putain, mais en fait, ça marche trop, quoi. Et il y a un effet de transposition qui s'est passé chez moi, que j'ai trouvé juste ouf, quoi. Et il y a quand même très très peu de jeux qui permettent de faire ça. J'en avais parlé dans la chronique sur les jeux de sport, je trouve qu'il y a des jeux qui arrivent à te faire ressentir des trucs comme ça. Et, là, Littoral, tu vois, c'est un jeu tout con avec des jetons, qui finalement, potentiellement, évoquent pas forcément un thème non plus, voilà. Et, j'étais là en train de prendre les jetons et je suis comme à la pêche. Je pense que je me rappellerai toujours cette partie à Cannes où on avait joué avec Fred Laloutre. Et Fred Laloutre, il était là, il a un caractère un petit peu comme moi, tu sais, un peu pousse au clim, un peu, il va parler beaucoup, il va être très vocal à la table. Et du coup, il piochait des jetons, puis il jurait, il était comme un charretier, là, comme ça, et puis t'avais l'impression d'être au port, tu vois. Mais ouais, c'est ça, c'était trop bien. Et donc l'effet de transposition a marché, mais à mort, quoi. Pour moi, sur ce jeu, c'est juste fou, quoi. Et voilà, ça aussi, c'est un élément qui fait que ce jeu-là, pour moi, c'est... Moi, pour l'instant, c'est mon jeu de l'année, hein, mais clairement, hein, c'est l'année 2024.
Moi aussi, C'est l'un de mes jeux d'année. Avec Rebelle Princesse, je pense. Les deux jeux de sortie de festival que j'ai le plus joué, quoi. Et c'est vrai que sur le côté lien thématique, tu parlais tout à l'heure de jeux abstraits, mais c'est le lien, la thématique, elle est quand même vachement. Je pense qu'elle est réfléchie déjà, que Isopode, Bécasso.
Ah oui,
quand on explique les règles, et tu l'as fait tout à l'heure par rapport aux crabes, dire bah les crabes, ils aiment bien avoir deux petits rochers là, ils se foutent au milieu. Et on raconte une histoire quand on explique les règles.
En tout cas, moi, effectivement, je l'explique comme ça. Ouais,
quand t'expliques les Bécasso, bah, tu racontes l'histoire. Bah, moi, j'explique pareil. Et je trouve qu'en termes de mémorisation, ça aide vachement. Et puis même la vague. L'idée que la vague, elle va retourner ta plage. Bah, à chaque fois que la vague, elle passe sur la plage, elle transforme la plage.
C'est ça. Elle révèle éventuellement un truc qui est en dessous, tu vois.
Donc, thématiquement, il y a tout qui colle, quoi.
Ouais.
Vraiment ce côté
dans un jeu qui est référencé comme sur BGG avec le tag abstract stratégie, quoi. C'est ouf, quoi. Moi je trouve ça juste fantastique.
Ouais, après les tags BGG
Oui, non mais c'est bien sûr, c'est pour l'anecdote, quoi. On critique suffisamment souvent quand on fait les sortes de gros jeux avec le professeur, mais ouais, ça me fait marrer, quoi. C'est vraiment le côté
alors que vraiment on se raconte toute une histoire, quoi, et c'est limite si tu sens pas l'air iodé quand il joue, quoi.
Ouais,
c'est ce qui manque. Ils auraient dû mettre quelques gouttes d'huile essentielle au fond du
sac. Un petit
sac,
truc de spray.
Que tout va faire. Pression marine.
Ouais.
Et même, tu parlais de la sobriété, mais même le carton d'emballage dans lequel le sac, je ne sais pas si tu l'as gardé, moi je l'ai gardé, je trouve ça plus facile pour filer.
Ouais, si, je l'ai gardé parce que du coup, j'arrive quand même à le ranger du coup, dans l'étagère hein, comme ça.
Voilà, parce qu'on est d'accord que, comme dirait Cargo, les sacs c'est chiant.
Ouais, un peu. Bah c'est bien pour partir en voyage, voilà, mais effectivement, ranger dans ton étagère, c'est moins bien.
Et mais le carton, ça fait carton à pizza grossier. Fin,
ah oui, c'est du carton ondulé. Hein.
Voilà. Et ça participe aussi à toute cette sobriété du jeu jusqu'au packaging. Et ce petit détail aussi délicieux d'avoir le jeton accroché à la ficelle, là.
Ah
c'est
oui.
Mignon comme tout.
Ouais. Bah, qui est un peu piégeux hein, d'ailleurs, des fois il y a des gens qui croient
qu'il
y a un jeton. Oui,
tout le monde qui veut le remettre dans le sac. Non, c'est juste pour faire joli.
Ouais.
Mais voilà, c'est le souci du détail au bout du bout.
Il y a juste quand même que ça a été fabriqué en Chine. Parce que de ce que j'avais compris, je crois que c'était Drew qui leur avait demandé à Cannes. Et ils avaient dit non, bah, on n'a pas réussi, sûrement dans les coûts qu'ils voulaient, patati patata, hein, à avoir la production qu'ils auraient voulu avoir, plus écologique. Avec, je crois que c'est pas non plus des encres écologiques parce que genre ça tenait pas assez bien à leur goût, sinon sur les jetons, genre de trucs. Voilà. Donc voilà, c'est le seul bémol moi, que je trouve au jeu. Effectivement, sa production en Chine et le fait qu'ils aient pas... Alors c'est quand même du bois FSC je crois, hein, mais bon aujourd'hui je pense que ça doit être même la norme à mon avis, mais bon.
Bon après c'est pas dit que sur une réédition qu'avec voilà des changements de l'évolution des usines que ça puisse pas être fait ailleurs qu'en Chine à un moment donné, quoi.
Ouais, bon j'ai peu d'espoir quand même, mais bon.
Mais c'est sûr qu'il faut du vernis. Ouais,
t'es plus optimiste que moi.
Bah ouais.
Voilà, bah écoute, je vais conclure juste en disant que bah pour moi tu vois c'est un jeu qui a une proposition avec une vraie cohérence d'ensemble et ça déjà c'est vraiment puissant je trouve. C'est un jeu qui se prend pas la tête, il faut quand même le dire, qui privilégie je trouve une forme de convivialité, tu l'as très bien illustré avec ce que tu as dit avec l'histoire d'apéro, de plage, etc. Mais là aussi dans une forme de cohérence, c'est-à-dire que tu vois, même ce mouvement à la fin où tu rassembles les piles et tu vas les mettre au milieu. C'est un peu ce moment où tu trinques, tu sais, avec les gens, quoi. Tu vois, t'amènes ta pile au milieu et tac,
oui,
et puis, bah, ça met fin à la partie. Et puis, bah, on passe à autre chose. Hop, on discute, on boit un coup et voilà, quoi. Et je trouve que c'est un jeu qui a vraiment, c'est un jeu qui a réussi vraiment à me toucher, hein, ça, clairement. C'est, voilà. Pour aussi ces éléments-là, je pense. Tu vois, indirectement, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai mis le doigt tout de suite, mais c'est en réfléchissant, en théorisant sur le truc et tout, je me dis en fait, il y a aussi ce côté forme de convivialité. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup recevoir à la maison les gens de l'équipe. Je pense me contrediront pas.
Oui, mais on peut en attester.
Voilà. Et du coup, je pense que toi, ce jeu-là, il était aussi fait pour moi quelque part par rapport à ça. Il illustre bien, il me va bien aussi par rapport à ça, quoi. Voilà.
Moi, moi, c'est le partage que j'aime beaucoup. Enfin, on accueille aussi beaucoup de gens à la maison. Mais c'est ce côté que tu puisses jouer avec n'importe qui.
Ouais, aussi, complètement. Hein.
J'aime ces jeux que tu peux jouer, c'est le cas de Penguin Party, et que tu peux le partager aussi bien à des gens qui jouent très peu, même si il y a quand même pas mal d'effets et qu'au final, pour des vraiment tout novices, quand t'expliques les règles au début, t'as un moment, ils ont les yeux écarquillés. Enfin, je sais pas si ça te l'a fait.
Oui, c'est
Non.
oui.
Oh là là,
Ouais.
il y a beaucoup de règles. Et au final, en jouant, ça roule tout seul, quoi. Mais il y a ce côté, tu les sens un peu gavés de règles, alors qu'en fait, ça va. Mais une fois que tu joues, une fois que tu es parti, et que tu peux ouais, se partager comme ça, sans que ça soit des jeux qui te prennent pour des imbéciles, quoi.
Oui, c'est ça, ouais, complètement, ouais.
Et ça marche, quel que soit le type de joueur.
Mais t'as raison de préciser le fait qu'il y ait ces petits effets, qu'il y ait différents effets, bah ça met quand même une petite couche de complexité qui fait que même si j'ai réussi à le faire jouer à beaucoup de monde, bah il y a quand même des gens où qui avaient cette réticence au début de la partie. Donc après, bah tu les guides dans la partie, ça se passe bien, et après tu peux enchaîner même sur une deuxième, il y a pas de problème. Mais la première partie, il y a quand même un truc, tu vois, on est quand même sur le cran limite, limite ça passerait pas quoi. Mais bah en l'expliquant typiquement. Parce que c'est ça aussi, enfin, pourquoi j'arrive à l'expliquer aussi comme ça maintenant avec ces histoires de, il y a deux rochers, les crabes ils vont dedans, hein, bah, c'est parce qu'en fait, c'est avec le recul des parties aussi, tu vois, en fait, tu te rends compte que, bah, il faut réussir à faire en sorte que les gens, ils se raccrochent à quelque chose de concret pour que ça percute leur cerveau et que ça s'imprime bien correctement, quoi. Et du coup, bah, avec ces petits trucs-là, et c'est dommage qu'ils l'aient pas utilisé dans les règles, ça, il faut le signaler quand même, ils l'ont pas utilisé dans les règles, ces petits moyens mnémotechniques, et je pense que ça aurait été vachement malin de le faire, parce que,
Je pense qu'ils ont dû y penser.
ouais, je pense qu'ils ont dû penser, ce serait bizarre quand même s'ils n'y avaient pas pensé, mais bon. Voilà.
Oui, parce que tu sens qu'il y a quand même une logique thématique et que du coup,
Bah, c'est
il y a
ça.
un sens dans les effets.
Ouais.
Et donc forcément, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas raconté l'histoire, dans les règles.
Voilà, donc bref, c'était Littoral, un jeu de Brian Burguan, illustré par Fanny Saulnier, édité par Randolph, distribué par Gigamic. Ça se joue de 1 à 5. Alors, il faut savoir que Flavien, du coup, a essayé la variante solo chez moi. Il a
D'accord.
dit, ça va.
OK.
Voilà, donc c'est bon. Enfin, je pense que vous aurez compris, c'est, enfin, je mets vraiment l'accent sur le partage, la convivialité autour de ce jeu. Avec voilà qui a des qualités propres en dehors de ça hein. Donc on comprend bien que c'est pas pour jouer à un enfin c'est pas là en tout cas que le potentiel du jeu s'exprime ni à deux parce que du coup pour la science j'ai fait une partie juste avant d'enregistrer avec ma femme à deux bon voilà c'est sympa mais c'est pas le jeu que je sortirais pour jouer à deux voilà. Et c'est bien pour ça que sur 25 parties c'était ma seule partie à deux
Ah ben moi j'en ai
bref.
fait pas mal à deux parce que à un moment ma nièce elle n'a voulu jouer qu'à ça. J'étais chez mes parents avec ma nièce H24 quasiment,
On a
donc
joué à Shotgun
sans
Total.
faire ben non je l'avais pas pris. On a
Mais
dû s'en faire cinq ou six parties par jour. Et ben franchement à deux tu joues différemment. Tu fais vraiment plus
ouais, c'est
gaffe à ce que
possible.
tu fous dans la mer, quoi. Et
Ah oui, c'est
c'est
bien probable.
aussi assez pertinent à deux.
Ouais, mais du coup, c'est pas, tu vois, ça, je pense que c'est pas la même proposition. T'es vraiment plus dans une forme de contrôle à faire des petits moves pour bloquer l'autre qu'à vraiment chercher à être greedy à mort, quoi. Donc,
Ah non, tu peux faire des 8 bécassos. Hein. À deux, tu peux. Ah ouais, tu peux aller gober 8 bécassos d'un coup, et ça, c'est quand
faire des
même
bécassos
le
d'huîtres,
kiff, quoi.
t'en feras qu'un, quoi.
Ouais, bah, t'en fais qu'un. Ah bah oui, t'en fais qu'un. Bah, c'est ça, c'est est-ce que je fais un bécasso d'huit ou est-ce que j'en fais 3 de 3? Et du coup, ça, c'est des questions que tu ne te poses pas à 4 ou 5.
T'as moins de chances de réussir à te les poser, ouais, effectivement. Bon, alors, en tout cas, moi, perso, je recommanderais plutôt à partir de 3, même, voire même de 4 en vrai. Hein. Si, pour moi, c'est là que ça commence à vraiment exprimer son potentiel plein, quoi. Mais après, vous faites ce que vous voulez. ça joue à partir de 8 ans. Et là, je pense qu'il faut pas non plus chercher à trop descendre. Bon, bien sûr, des enfants qui ont l'habitude, ils vont y arriver à 7, 6. Moi, ma fille, elle a 7 ans, bah, elle y arrive. Hein. Bien sûr, il y a pas de souci parce qu'elle a vraiment l'habitude. Mais c'est pas comme Penguin Party où effectivement, quand tu me dis 6 ans, tu dis bah pff, oui, franchement, je vois pas
Ouais, non,
pourquoi ils ont mis 8.
celui-là, 8, c'est pertinent, quoi.
10-20 minutes et voilà, 23,90 € à la caverne du Gobelin, et il y en a encore, donc faites-vous plaisir, si le cœur vous en dit.
Là, ils avaient dû faire des gros stocks au début.
C'est probable. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, Elodie, merci à toi pour ce partage dans cette toute première émission de la saison 15. C'était cool.
Eh bien, oui, c'était très, très chouette. On a passé un beau moment. Ouais. Et j'en profite pour faire un tout petit teasing par rapport à ma première chronique.
Mais vas-y.
Qui, ce coup-ci, traitera d'une thématique. Et peut-être que je vous parlerai de la plage. Et peut-être que je reviendrai sur les illustrations de littoral.
D'accord, ok. Ah bah c'est cool, c'est marrant, voilà. Ça va faire un petit fil rouge. Cool.
Voilà, ça fait le lien.
Ah. Ok, j'ai cru que tu allais nous dire que tu allais parler de Vincent Dutray, enfin, mais non.
Ah non, Vincent Dutray, ça sera ma dernière chronique. Donc le jour où je vous parle de Vincent Dutray, c'est mon chant.
Ah vache,
et c'est une spéciale d'une heure. Le gars, il a illustré 200 jeux.
Voilà.
Donc, voilà. Le jour où je vous parle de Dutray, ça sera la fin de Dessine-moi un plateau.
Ça, tout est prévu. Incroyable. Voilà. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous pouvez nous contacter également sur Twitter, sur on dit X, oh là là, sur X, sur Facebook, sur Instagram, sur Mastodon, sur Blue Sky, mais aussi sur Discord, parce qu'on a on commence à avoir une belle petite communauté bien sympathique sur Discord. Donc venez nous rejoindre si vous n'êtes pas déjà inscrit sur notre Discord. Vous trouverez le lien en fait sur la page d'accueil du site. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux, et donc en particulier celle-ci, et puis surtout parlez de nous autour de vous, parce que le bouche à oreille, c'est encore le meilleur réseau social qui existe. Si vous avez aimé ce qu'on fait, bah vous pouvez également nous le dire avec des sous, soit via PayPal, là encore l'adresse de notre PayPal est sur la page d'accueil du site, soit par un virement bancaire. Vous pouvez faire des virements réguliers, et normalement votre banque, elle vous prend rien, il n'y a pas de commission, contrairement à PayPal. Donc c'est, on vous l'avoue, le meilleur moyen encore de nous aider, c'est le virement bancaire, et pour ça bah vous nous contactez et on vous enverra notre RIB. Le mois prochain, il y aura un nouveau duo dans l'émission des jeux du mois, sauf si t'as décidé de t'installer ad vitam.
Non, le mois prochain vous m'entendrez déjà dans les chroniques et dans le dossier.
Voilà. Et puis la semaine prochaine, alors ça sera pas exactement un dossier la semaine prochaine, parce que Flavien, pour ne pas le citer, a eu une idée qu'on a trouvée plutôt intéressante. On va vous proposer une émission sur mes auteurs et autrices préférés. Donc chaque membre de l'équipe, enfin, ceux qui ont envie et le temps, vous proposeront une pastille pour vous présenter leurs auteurs autrices préférés. Et on s'est dit que c'était plutôt sympathique aussi pour permettre de montrer aussi les personnalités des gens qui sont dans l'équipe, peut-être les personnalités des gens qui sont un peu moins en vue, un peu moins visibles aussi de l'équipe, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, hein, et je me compte dedans, qui sont là depuis longtemps, et que du coup les auditeurs auditrices qui nous connaissent bien connaissent potentiellement bien, mais peut-être un peu moins d'autres personnes. Et donc du coup c'est l'occasion aussi de montrer un petit peu la personnalité des uns des autres, voilà. Donc je pense que ça sera plutôt intéressant, n'est-ce pas?
Ouais, puis c'est aussi une manière de continuer à notre combat, pour montrer que le jeu est un élément culturel, et donc de mettre en avant les auteurs et les autrices, ce qui font leur particularité, et ce qu'on fait, nous, ce qu'on fait dans le podcast, mais qui est peut-être pas souvent fait dans les autres médias, les médias ludiques.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et bien voilà, mais il nous reste à nous dire au revoir, je crois.
Eh ben oui, il nous reste ça, à nous dire au revoir.
Alors, à très bientôt, et surtout, jouez bien.